Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le VIH et le sida.
Avec l'appui d'autres participants, nous chercherons à répondre d'un point de vue biblique à quelques questions fréquemment posées par ceux et celles qui se trouvent confrontés au sida. Il faut rappeler que les interviews originaux avec ces participants étaient en anglais. Leurs interventions ont été traduites et leurs propos redits, joués par des francophones.
La dernière fois, nous avons parlé des raisons pour lesquelles les églises sont réticentes à s'engager dans la lutte contre le sida et le VIH.
Certaines pensent que les soins des personnes touchées et infectées ne relèvent pas du ministère de l'Église et que cette dernière devrait se concentrer uniquement sur l'annonce de l'Évangile.
D'autres églises voudraient bien s'engager, mais elles pensent que le problème est insurmontable. Elles se sentent dépassées et ne savent ni où commencer, ni où trouver les ressources nécessaires.
D'autre part, on constate que la peur du VIH persiste et qu'il existe encore beaucoup d'ignorance à ce sujet. Selon nos interviewés, cela représente un problème majeur pour beaucoup d'églises. Certains vont jusqu'à dire que ces attitudes favoriseraient même la transmission de la maladie.
Il faut donc le souligner. Il est essentiel que les églises fournissent des informations exactes à propos du VIH et du sida, afin de chasser les légendes et les idées fausses. Cédons la parole au docteur Peter Okaale de MAP International.
Instruisons-nous nous-mêmes en tant que responsables d'église. Apprenons ce que les autres savent déjà. Discutons entre nous de ces sujets difficiles à aborder. Demandons l'avis aux gens qui ont déjà de l'expérience dans ces domaines particuliers et laissons-les nous éduquer, nous enseigner. Si nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi les gens ne fuiraient-ils ? Actuellement, des gens atteints par le VIH ou le sida nous fuient. Nous devons donc nous demander si nous suivons vraiment l'exemple de Christ.
La dernière fois, nous avons appris que beaucoup d'églises se sentent mal à l'aise quand il faut aborder des questions liées à la sexualité. Peut-être est-ce parce que de nombreuses personnes ne comprennent pas le fonctionnement de leur corps et encore moins comment le VIH est transmis. Susie Howe, qui est directrice de le Bethany Children's Trust, a une suggestion à faire.
Il faut faire quelque chose, même s'il ne s'agit que de trouver une infirmière de votre hôpital local pour venir vous parler de la biologie de notre corps. Dieu a fait le corps humain. Le corps est bon et beau, glorieux. Alors, faisons l'effort d'en découvrir plus à son sujet. Découvrons les bons desseins de Dieu pour la vie et nos corps. Essayons de comprendre comment notre corps fonctionne et en quoi nous pouvons le mettre en danger, que ce soit en fumant ou en ayant des rapports sexuels hors mariage.
La peur et l'ignorance du VIH et du sida dans l'Église peuvent être combattues par la diffusion de bonnes informations à ce sujet.
Mais plus puissant encore, c'est quelqu'un qui se lève pour raconter son histoire. Écoutons Edouard Simiyu de City Harvest à Nairobi, au Kenya.
J'ai invité une chrétienne très affermie qui vit avec le sida à venir donner son témoignage personnel à l'Église. Les gens étaient très touchés, car ils ont réalisé que l'on peut être à la fois chrétien et infecté par le sida. Du coup, ils ont commencé à être plus attentifs. Notre Église a commencé très lentement en distribuant des informations, des ouvrages et des prospectus. Au début, les gens en prenaient sans rien dire, mais par la suite, cela a entraîné un fort élan et les gens ont cherché à savoir de plus en plus de connaissances et d'informations à ce sujet.
Écouter le témoignage d'une personne séropositive est déjà bien, mais Susie Howe explique qu'il faut aussi se soucier du bien-être de ces personnes et leur exprimer de l'amour.
Les gens réalisent soudainement que les malades du sida sont des êtres humains tout comme eux. Je dirais que la première chose que l'Église doit faire pour s'engager davantage, c'est simplement comprendre leur vie, d'être à leur écoute, d'aller les voir et de se mettre à leur place quelques instants et de leur demander comment ils aimeraient que l'Église leur apporte un soutien et une aide.
Les personnes qui vivent avec le sida ont besoin d'amour et de fraternité, tout comme nous, et même bien plus encore que nous. Si déjà les chrétiens ont peur du VIH, imaginons alors quelle doit être la peur de ceux qui vivent avec le sida.
Et ils ont besoin de recevoir de la compassion et des soins pratiques. Jésus nous montre l'exemple à suivre, la démarche à adopter lorsqu'il a tendu la main pour toucher les gens atteints de la lèpre.
Une autre raison pour laquelle les églises trouvent cela difficile de s'engager est l'ampleur du problème du VIH.
Susie Howe, de Bethany Children's Trust, est d'accord pour dire que nous devons rester réalistes.
Oui, il y a d'énormes besoins autour de nous, mais je ne pense pas que Dieu nous demande de dépasser nos limites pour nous noyer dans le travail. Il nous dit à chacun de faire ce qui est possible, de commencer par exemple avec une seule personne au lieu de vouloir tout de suite monter un projet pour des centaines. Commencez par une seule personne et voyez comment vous vous en sortez avec elle. Vous verrez comment les choses se développent. C'est très épanouissant car on peut assister aux transformations de situations et de personnes. Notre Père Céleste, le Créateur du monde, est à nos côtés. Il nous donne des capacités et des forces. Commencez avec une seule famille ou une seule personne et vous voyez où cela vous mènera.
Nous retrouvons Joséphine Muniwoki de l'association Faraja.
J'aimerais encourager l'Église à être utile là où elle se trouve et à ne pas trop attendre en se disant « Nous serons utiles lorsque nous aurons reçu plus de formation. » Non, commencez là où vous êtes. Faites le premier pas et tendez la main à une personne infectée. C'est une opportunité de servir et de montrer l'amour de Christ et non pas une occasion de condamner ou de dire qu'il s'agit d'une punition. Non, bien au contraire, c'est une opportunité de servir.
Susie Howe souligne l'importance d'aborder ces gens sans porter de jugement.
C'est une question de vie ou de mort. Nous ne devons pas leur fermer la porte, mais plutôt la leur ouvrir. Si nous ne pouvons pas leur donner les informations dont ils ont besoin, nous devons les orienter vers des gens qui peuvent le faire, les guider avec soutien et amour et éventuellement leur dire « Au fait, nous avons un service spécial et nous aimerions que vous y assistiez. Je vous attendrai à la porte pour que vous n'ayez pas à y entrer seul. »
Une autre manière de contrer les attitudes de jugement, c'est que l'Église fasse preuve de solidarité envers les gens touchés par le sida. Écoutons Trey Shepherd, un collecteur de fonds pour le financement de projets liés au sida en Afrique.
Si nous, en tant que disciples de Jésus, faisons plus de tests de dépistage, nous serons en mesure de mettre un terme à la stigmatisation sociale et de montrer que nous voulons réellement atteindre la communauté et montrer l'amour de Jésus. C'est merveilleux qu'autant d'églises locales commencent à développer des groupes de soutien pour ceux qui sont atteints par le VIH ou du sida, afin qu'ils puissent mieux vivre avec, et ce, le plus longtemps possible.
Comme nous l'avons expliqué plusieurs fois au cours de cette série, le sida ne devrait pas être considéré comme un jugement de Dieu à cause du péché sexuel, mais plutôt comme une opportunité pour l'Église de faire preuve de compassion et de faire vivre la bonne nouvelle du pardon des péchés. Dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9, il est écrit «
Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. »
Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et non pas par nos œuvres. Cependant, Dieu veut quand même que nous participions à ses bons desseins. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit
« Par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. »
Lise Ling de Intemba évoque le nouveau commandement que Jésus donna à ses disciples en Jean 13.
Il est important que les gens de l'extérieur voient que l'Église aime les siens. C'est ainsi qu'ils comprendront mieux notre foi et connaîtront notre Sauveur. Pour répondre aux églises qui trouvent difficile d'accueillir les membres séropositifs de leur propre congrégation, je les confronterai à ce verset. Puis, je vois les gens qui souffrent en dehors de l'Église et je pense à la parabole du bon Samaritain, où l'on demande à Jésus ce qu'il faut faire pour obtenir la vie éternelle. La personne qui a posé cette question voulait savoir qui était ce prochain. Ce prochain représentait quelqu'un qui était en marge de la société. Si l'Église veut vivre l'amour du prochain, elle doit tendre la main vers ces personnes marginalisées. Il faut atteindre les gens que votre communauté considère comme socialement inacceptables, peut-être même des personnes d'arrière-plan musulmans, et vous devez leur donner les mêmes soins que vous offrez à vos frères et sœurs en Christ.
Dans l'Ancien Testament, les prophètes d'Israël dénonçaient une société qui ne prenait pas soin des personnes les plus vulnérables. Par exemple, en Ésaïe, chapitre 1, versets 16 et 17, il est écrit
« Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos méchantes actions et cessez de faire le mal. Efforcez-vous de pratiquer le bien, d'agir avec droiture, assistez l'opprimé et défendez le droit de l'orphelin. Plaidez la cause de la veuve. »
Nous retrouvons Suzy Howe.
Prenez la défense de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Prenez la défense de ceux qui sont opprimés et qui souffrent. Prenez soin des veuves et des orphelins. Voilà ce que nous devons tous faire si nous voulons être distincts, des personnes qui reflètent le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons commencer à vivre selon ses valeurs et faire ce qu'il ferait à notre place.
Au début de son ministère terrestre, Jésus annonça, en citant le prophète Ésaïe, qu'il était celui qui libérerait les prisonniers du péché.
Avoir un ministère parmi ceux qui sont captifs, dans les ténèbres du VIH et du sida, va dans le même sens, selon Suzy Howe.
C'est comme si on leur ouvrait une porte pour déclarer « Sortez de cette prison de peur, sortez de cette prison d'isolement ». Nous sommes tous prisonniers du péché, mais grâce à Jésus, nous pouvons en être libérés. Nous pouvons apporter aux gens la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous pardonne complètement. Nous avons une nouvelle vie. Voilà ce qui est libérateur pour toute personne, y compris pour les personnes qui vivent avec le VIH.
En bref, l'Évangile doit bannir toute réticence à s'engager contre le VIH et le sida. Avec cette conclusion, nous terminons notre émission.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à notre émission. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.